Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France, adieu.
Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 minutes du soir, qu'il a rendu son dernier soupir.
C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité.
Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret.
Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité.
L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le sauveur du monde. Une couronne d'épines.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Une série réalisée par Franck Istas et Pierre de Valais. 4e épisode, l'évangile de Sainte-Hélène.
Napoléon, après sa 2e abdication, est contraint à l'exil une seconde fois. Sous la surveillance des Anglais, il est déporté loin, très loin, sur un rocher perdu au milieu de l'océan Atlantique. Après 3 mois en mer, Napoléon et ceux qui peuvent l'accompagner débarquent à Sainte-Hélène, l'île où il devra vivre sa captivité. Les Anglais vont à présent déployer un dispositif sans précédent pour empêcher toute tentative d'évasion.
Il faut savoir que le dispositif militaire pour garder Napoléon est unique dans l'histoire mondiale. Jamais on n'a consacré autant de moyens pour garder un seul homme.
Pierre Branda, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène.
Parce qu'en fait, il y a l'île de Sainte-Hélène, mais plus que ça, c'est toute l'Atlantique Sud qui est réservée à Napoléon, parce que la flotte britannique d'Atlantique Sud a reçu, à partir de l'arrivée de Napoléon, pour mission essentielle de réguler le trafic maritime pour empêcher toute évasion. Donc en fait, on a réservé un océan à Napoléon parce que, avec cette distance, on veut comme ça construire un premier cercle. Le second cercle, c'est la flotte britannique qui est maintenant dévolue à garder Napoléon et non plus à autre chose, quasiment plus rien d'autre. D'ailleurs, le commandement de la flotte est transféré du Cap à Jamestown, la capitale de Sainte-Hélène. Donc 4 navires croisent en permanence autour de l'île. La navigation, enfin l'accès, l'approche de l'île est interdite à tout navire non britannique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on est en train d'ériger comme ça un autre cercle de défense maritime, donc très difficile à franchir. La flotte britannique est la première du monde, il faut le savoir. La troisième, c'est l'île elle-même. C'est une île donc constituée de falaises très hautes, dont les baies d'accès sont très étroites, donc peuvent être bien défendues. Une seule peut être vraiment accessible par mer, c'est celle de Jamestown, mais là, elle est entourée de forts. Les autres, on peut absolument pas, les courants marins interdisent qu'on y débarque, enfin sinon on fracasse le navire sur les rochers. Donc déjà, naturellement, elle se défend toute seule, ou presque. Alors néanmoins, malgré ça, sait-on jamais, les Anglais vont construire des petites murailles de Chine dans les baies existantes, d'autres sur lesquelles ils vont installer plus de 500 canons. Il faut savoir que ces 500 canons, c'est 2 fois ce qu'il y avait à la bataille de Waterloo. Je veux dire, donc, c'est dire l'échelle dans laquelle nous sommes. Et installer, avec pour les troupes qui étaient déjà là, environ 3000 hommes de troupes. Construit en fait Sainte-Hélène, une île prison absolument inexpugnable. J'ajoute que les 2 îles voisines, de 1000 km, Tristan d'Acunha et Ascension, sont envahies par les Anglais, qui se les accaparent. Des fois qu'elles servent de base arrière à une expédition. Donc, enfin, vous voyez, je veux dire, le cercle est très très large et vraiment très pensé pour un seul homme. Et c'est véritablement la démesure. D'ailleurs, personne ne comprend cette démesure-là. Napoléon le premier, mais aussi les commissaires alliés qui se rendront sur l'île de Sainte-Hélène. Tout le monde est effaré. Par ça, le commissaire Balmain aura cette formule, dira, chaque fois que je marche, je trouve un soldat anglais dans chaque arbre. Enfin bon, et à l'intérieur de l'île, elle sera réorganisée de façon à ce que, eh bien, à chaque point de passage des routes, eh bien, il y ait des sortes de douanes intérieures auxquelles on délivre des mots de passe. Enfin, l'île n'a pas de, effectivement, il n'y a pas de porte de prison, mais en fait, elles sont encore plus hermétiques que n'importe quelle prison. Et en fait, on est en train de concevoir quelque chose à la mesure de ce géant de l'histoire, en fait. Hein. Quelque part, et d'ailleurs, le conte de Jonathan Swift est contemporain, est 1816. Hein. C'est Gulliver parmi les Lilliputiens. Hein. Je ne veux pas insulter les amis anglais, mais je veux dire, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire, on est en train d'enchaîner un géant de peur qu'il ne fasse quoi, on ne sait pas d'ailleurs, mais quelque chose d'épouvantable et qu'on ne pourrait pas arrêter. Hein.
L'exil de Napoléon à Sainte-Hélène va coûter extrêmement cher puisqu'il va falloir envoyer plusieurs milliers d'hommes dans l'Atlantique Sud.
Charles-Éloi Vial, historien, auteur de Napoléon, la certitude et l'ambition.
Il va falloir pourvoir leur entretien, leur nourriture, leur logement, les soldats. Donc on estime que cela coûte 320 000 livres par an, c'est-à-dire 8 millions de francs par an. Donc c'est vraiment une somme conséquente. Pour vous donner une comparaison, la liste civile de Napoléon, c'est 25 millions de francs par an qui servait à faire vivre toute la cour impériale. Donc là, on a vraiment une somme énorme qui est investie pour garder Napoléon sur cette île. Simplement pour vous dire, le fonctionnement de la maisonnée de Longwood, c'est théoriquement 12 000 livres par an. Un petit peu des dépassements, mais ça permet de faire vivre une cinquantaine de Français. Donc, en fait, c'est Napoléon qui coûte le moins cher dans cette affaire. Ce sont surtout les soldats, les navires, les armes, les fortifications qui vont être faites sur l'île. Ça, c'est un investissement très lourd, et on sait que c'est un investissement quasiment sans lendemain, puisque, une fois Napoléon mort, tout cela ne servira plus à rien.
Lorsque Napoléon arrive à Sainte-Hélène, rien n'est prêt.
Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
Les Anglais, bien sûr, ont prévenu gouverneur de l'île, mais il a été prévenu quelques jours avant l'arrivée de l'escadre qui lui amène Napoléon, et donc pas grand-chose de prévu. Donc Napoléon va passer sa première nuit dans une espèce de pension de famille qui se trouve en pleine ville, alors n'exagérons pas, ça n'est pas une mégalopole, c'est une ville de quelques centaines d'habitants, mais enfin c'est la seule ville de Sainte-Hélène, et donc on l'installe dans cette pension Porteus, qui est donc son premier lieu de résidence. Et puis dès le lendemain, l'amiral Cockburn et le gouverneur veulent lui montrer le lieu où on a prévu de le loger, parce qu'on a un petit peu réfléchi. On s'est dit que sur le plateau de Longwood, là, un petit peu sur les hauteurs de l'île, il y avait la maison secondaire du vice-gouverneur de l'île, et que par conséquent, cette maison était vaste, qu'elle était peut-être confortable, et qu'on y logerait Napoléon, mais bien sûr, après y avoir fait les travaux nécessaires pour des agrandissements, des aménagements, l'installation d'un certain nombre de commodités. Donc Napoléon galope jusqu'à Longwood pour aller voir ce nouvel endroit.
L'amiral Cockburn n'a pas choisi Longwood, le futur lieu de résidence de Napoléon, au hasard. Cet endroit remplit selon lui toutes les conditions nécessaires à la surveillance de l'empereur déchu.
Longwood est isolément situé à une distance des parties de l'île qui sont habitées. Conséquemment, aucun des habitants n'a et n'aura vraisemblablement le besoin de venir ou même de passer dans son voisinage. C'est l'habitation la plus éloignée des points de la côte qui sont toujours accessibles aux bateaux. Alentour s'étend un terrain plat que des sentinelles peuvent facilement garder et qui est parfaitement convenable pour prendre l'exercice du cheval et pour faire d'agréables promenades à pied ou en voiture. Ce qu'on ne trouve pas dans toutes les parties de l'île.
La première réaction de Napoléon en voyant Longwood n'est pas négative. Probablement sont-ils montés sur ce plateau un jour où il ne faisait pas trop mauvais. Le temps de Sainte-Hélène est un temps tropical, donc c'est une île très très agréable à vivre, avec cette difficulté que sur les hauteurs, il fait toujours un petit peu plus froid, puis surtout il pleut souvent parce que les nuages viennent percer sur les hauteurs. Mais le jour où Napoléon y monte, il voit quelque chose. Bon, il sait qu'on va faire des travaux, donc en connaît-il la nature exacte? On n'en sait rien, mais enfin, bon, tant qu'à avoir une maison, autant qu'elle ne soit pas au milieu de la population, qu'elle soit un petit peu à l'écart de la vie de Sainte-Hélène. Et puis, cette maison, à première vue, a l'air assez grande, et puis on va encore l'agrandir.
Ce n'est plus la splendeur des Tuileries, mais qu'importe. Si je suis déchu de ma puissance, je ne le suis pas de ma gloire. Je conserve mes souvenirs. Mon âme est libre et indépendante, comme lorsque j'étais à la tête de 300 000 hommes. L'injustice et la force peuvent maltraiter mon corps, mais la réprobation de tous les peuples et celle de la postérité me vengeront.
En arrivant à Longwood, enfin déjà en débarquant d'ailleurs à Sainte-Hélène, Napoléon est relativement optimiste parce qu'il pense que c'est une sorte de punition qu'on lui impose. Il s'est mis cette idée en tête que c'est un exil qui va être temporaire, qu'on va le laisser 2 ou 3 ans loin de l'Europe et puis qu'on finira par le rapatrier ou peut-être par l'envoyer aux États-Unis, mais qu'il sera dans un endroit un peu plus civilisé. Donc il y a cette idée chez lui que c'est quelque chose de temporaire, qui ne doit pas durer. Il faut dire que l'île n'est pas des plus désagréables. Il arrive à un moment où il fait relativement beau, il va passer ses premières semaines au Briars, donc un pavillon tout à fait charmant avec un très joli microclimat. Et c'est seulement à Longwood qu'il va se rendre compte qu'il est sur le point le plus désagréable de l'île au niveau du climat. Il y a du vent, il y a de la brume, c'est très humide. Mais quand même, il ne se plaint pas parce que la maison était refaite à neuf. Donc la maison n'est pas grande, elle n'est peut-être pas parfaite au niveau de la distribution des logements, mais c'est un logement neuf, tout à fait correct. Il a un appartement qui est acceptable. Donc ça va. Ça va d'autant plus qu'il se dit que ça ne peut qu'aller mieux, puisqu'on va sans doute lui envoyer, d'ailleurs ça va être le cas, on va lui envoyer du mobilier d'Angleterre, on va régulièrement entretenir la maison, la repeindre. Donc il se dit que c'est acceptable, et ça n'est que dans les années qui suivent que la maison va se dégrader, notamment à cause de l'humidité et à cause des rats, que sa santé va finir par se ressentir aussi, comme celle de tous ses compagnons, de cette humidité incessante, de cette atmosphère complètement étouffante, moite de Longwood. Ça n'est qu'au bout de quelques mois que vraiment il va se rendre compte que c'est un endroit invivable et qu'on l'a placé au pire endroit de l'île.
Effectivement, quand Napoléon s'installe 2 mois plus tard dans sa résidence définitive à Sainte-Hélène, son impression sur ce qui sera sa dernière demeure a changé, comme le raconte le comte de Lascaz dans le mémorial de Sainte-Hélène.
On s'est mis en route pour Longwood. L'empereur a monté le cheval qu'on lui avait fait venir du Cap. Enfin se déroulait pour nous une portion nouvelle de notre existence sur le malheureux rocher de Sainte-Hélène. On venait de nous établir dans nos futures demeures, de nous assigner les limites de notre sauvage prison. Longwood se trouve dans une des parties les plus élevées de l'île. Des vents éternels, parfois violents, emballaient constamment la surface. Des nuages le couvrent presque toujours. Le soleil, qui y paraît rarement, n'en a pourtant pas moins d'influence sur l'atmosphère. Il attaque le foie si on n'y prend pas garde, si on ne s'en préserve pas avec soin. Des pluies abondantes et soudaines achèvent d'empêcher qu'on ne distingue ici aucune saison régulière.
L'Angleterre, dans tous les pays européens, est le seul qui n'a jamais reconnu l'Empire français. Donc, pour les Anglais ou le gouvernement britannique, il n'y a pas d'empereur Napoléon. Il y a éventuellement un premier consul, donc chef du gouvernement français, puisque en signant la paix d'Amiens, l'Angleterre a de fait reconnu le gouvernement consulaire. Et donc, par conséquent, ils utilisent non pas le titre de premier consul, puisqu'il est forclos depuis longtemps, mais ils utilisent le grade de Napoléon, donc général de division. Et donc, il devient pour eux le général Bonaparte. Et ils en font une affaire d'État, si l'on peut dire. Et à l'inverse, Napoléon en fait lui aussi une affaire d'État. Lui, il se considère comme étant un empereur. Et donc, il refuse cette appellation de général Bonaparte. Alors, ça donne lieu à des guerres à la fois qui ont l'air un petit peu ridicules, mais qui en fait sont des questions de principe extrêmement importants, qui font que les Anglais refusent tous les écrits, tous les courriers dans lesquels il est fait référence à un empereur Napoléon, et qu'à l'inverse, Napoléon se refuse d'écrire aux Anglais puisqu'il ne serait considéré que comme le général Bonaparte. C'est en effet un problème qui peut paraître un petit peu secondaire, presque ridicule, mais qui est en réalité une véritable question de principe.
Et au-delà de ces histoires de titres, les Anglais renforcent petit à petit la surveillance autour de Napoléon.
Au fur et à mesure de la captivité, la liberté de Napoléon va être progressivement réduite. Au départ, on n'a pas vraiment réfléchi à tout ça, parce que les gens ne connaissent pas Sainte-Hélène. Et donc, les Anglais qui arrivent avec Napoléon, ils doivent d'abord apprendre à connaître l'île. Donc, on va le laisser un petit peu, alors bien sûr, toujours un peu accompagné par des officiers anglais, mais on va le laisser un peu se promener, on va le laisser un petit peu galoper. Et puis, au moment où on va l'installer à Longwood, là, il va y avoir un périmètre de sécurité. Et à partir du coucher du soleil, il est extrêmement resserré autour de la maison. Les sentinelles sont quasiment sous les fenêtres de Napoléon. Mais ceci étant dit, il a le droit de sortir de façon totalement libre dans un périmètre qui lui semble très réduit, mais quand on va sur place et qu'on voit quel était ce périmètre, il y a de quoi se promener. Et puis s'il veut sortir du périmètre, il faut qu'il soit accompagné d'un officier anglais. Alors Napoléon refuse d'abord d'être accompagné par un officier anglais, enfin il leur joue quelques mauvais tours, il se met à galoper, à les semer, enfin, etc. Et puis après, plus tard, il va complètement refuser de sortir, en disant que même les limites de promenade sont pour lui les murs d'une prison. Donc Napoléon ne va pas jusqu'au mur de sa prison.
Le général Gourgaud, compagnon de l'exil de Napoléon, est témoin des premières tensions avec l'amiral Cockburn.
L'empereur me raconte que l'amiral est parvenu à se faire recevoir de Sa Majesté, qu'il l'a vertement blâmé de sa conduite et lui a reproché les factionnaires placés autour de la maison. Il lui dit
« La postérité ne manquera pas de reprocher à l'Angleterre de m'avoir laissé 2 mois dans une seule pièce fort mal installée, dans l'impossibilité même de prendre des bains. »
L'amiral, fort déconcerté, a promis de faire tout ce qu'il dépendait de lui pour améliorer notre position. Mais ne peut, d'après ses instructions, laisser Sa Majesté sortir de l'enceinte sans être accompagné d'un officier.
Autre restriction inacceptable pour Napoléon, sa correspondance dorénavant sera surveillée par les Anglais.
Napoléon ne peut pas écrire à l'extérieur comme il le veut, d'autant plus que s'il le faisait, il utiliserait son titre d'empereur.
Thierry Lenz.
Donc ça, c'est inadmissible pour les Britanniques. Et puis, on a toujours peur que Napoléon corresponde avec des amis politiques, voire avec d'anciens militaires qui voudraient venir le libérer. Donc, il faut que les courriers soient remis ouverts au gouverneur. Et ça, évidemment, Napoléon ne peut pas le tolérer. Ce qui fait que pendant l'exil de Sainte-Hélène, on a très peu de lettres de Napoléon. Il n'a quasiment pas écrit officiellement à l'extérieur, même si l'on est sûr qu'il a eu une correspondance clandestine, peut-être pas très volumineuse, mais elle a existé, c'est certain. La suite de Napoléon est un peu plus libre. Juridiquement, le seul prisonnier à Sainte-Hélène, c'est Napoléon. Les autres ne sont pas prisonniers, ce sont des volontaires qui accompagnent Napoléon pour le servir et lui faciliter la vie. Donc on ne leur impose pas tellement de règles de sécurité. On sait par ses mémoires que Montholon est sans arrêt en ville et va voir les autorités. Le général Bertrand, c'est la même chose. Même les domestiques arrivent à aller au marché, à être un petit peu libres. D'ailleurs, un d'entre eux, Cipriani, va en profiter pour faire un petit peu d'espionnage. La suite, elle peut communiquer avec l'extérieur. La bulle, un petit peu, où on ne fait pas ce qu'on veut, c'est Longwood et ses environs. Ni en sortant, ni en entrant, d'ailleurs. Dès qu'on entre dans les limites de Longwood, on est dans un palais impérial, et par conséquent, l'étiquette y est très stricte.
Napoléon a quand même une certaine autorité naturelle qui lui permet d'en imposer et d'imposer le respect autour de lui.
Charles-Éloi Vial.
Donc quand il est là, personne ne moufte, personne n'ose élever la voix, il y a un respect parmi tous les Français qui l'ont accompagné, il continue à se comporter comme s'ils étaient aux Tuileries. Napoléon dicte des ordres très nets sur la façon dont doit fonctionner sa maisonnée, c'est-à-dire que les cuisines, l'office, les écuries, la chambre, tout ça c'est une sorte de réduction du fonctionnement du palais des Tuileries, et l'étiquette continue à s'appliquer. Donc en fait, le quotidien est régi par la volonté de l'empereur, et personne n'ose outrepasser ou contredire ses ordres. Donc il y a cette idée vraiment que Longwood est une sorte de palais d'exil, de palais miniature, mais un palais quand même. C'est la résidence de l'empereur, de toute façon, c'était déjà le cas pendant toutes les campagnes militaires, l'endroit où l'empereur loge, c'est le palais. Donc personne ne se pose la question dans son entourage. C'est le palais impérial, les règles du palais impérial s'appliquent.
Napoléon a expliqué lui-même pourquoi il maintenait cette étiquette à Longwood. C'est au fond la seule chose de l'Empire qui lui reste. Il ne gouverne plus, il n'a plus d'armée, il n'a plus rien. Il lui reste son titre d'empereur, et ce titre se manifeste, se concrétise par l'existence de règles protocolaires, l'existence ou le maintien d'une étiquette très stricte, et véritablement, sur cet aspect, il ne transigera jamais. C'est ce qui explique ses bisbilles avec le gouverneur, mais c'est ce qui explique aussi les grandes colères qu'il va avoir contre son entourage à chaque fois que l'étiquette ne sera pas respectée.
Mais les Français présents à Sainte-Hélène ont beau essayer de conserver une forme d'étiquette impériale d'apparence, quand on gratte le vernis, ce n'est guère reluisant. Les intrigues et les disputes entre eux vont devenir de plus en plus nombreuses.
Longwood, c'est un lieu fermé dans lequel se retrouvent de fortes personnalités, à commencer par celle de Napoléon, évidemment, mais dans laquelle on a aussi des besoins humains. On a besoin d'être apprécié, on a un peu d'ambition aussi, même dans ce lieu très fermé, très minuscule, on a besoin d'amour. Donc il y a des histoires dans les ménages, il y a des histoires, par exemple, entre Napoléon et Albine de Montholon, très probablement elle a été sa maîtresse. Napoléon a très probablement essayé de se rapprocher de la femme du général Bertrand qui ne voulait pas en entendre parler. Donc vous voyez, tout ça, ça crée des tensions entre les hommes et les femmes de cette petite communauté, y compris chez les domestiques. Il y a des bien sûr, les gens ne peuvent pas toujours s'aimer, donc là, on se méfie par exemple de Cipriani, qui a l'air d'être une espèce de petit espion, voire même d'un agent double. Dans cette ambiance parfois étonnante, parfois pathétique, parfois révoltante, je pense notamment au comportement du général Gourgaud, il y a quelques personnalités qui émergent par, on va dire, leur sens du service, ou voire même leur sens de l'honneur. On parle du général Bertrand, évidemment, mais on parle aussi chez les domestiques de Louis Marchand, le valet de chambre de Napoléon, éventuellement du Mamelouk Ali, qui se tient un petit peu à l'écart de toutes ces histoires. Mais il y a au fond, chacun a sa petite histoire individuelle de Sainte-Hélène. Plusieurs se marient à Sainte-Hélène, ils ont des enfants.